Shalom, shalom ouvracha, shalom ouvracha, erev tov les koulam. Désolé pour ces quelques petites minutes. Je vois que les gens, hop là, shalom, shalom, voilà, ça y est, on est prêt, on est lancé, on peut y aller. Donc j'attends le tout petit ishour de Midrashet Yehuda, ça va bientôt commencer, donc a priori ça veut dire que c'est bon. Dites-moi juste que c'est bon et on peut commencer. Voilà, voilà. Yesh, yesh. Yesh. Il y a là un petit signe pour dire que vous m'entendez bien. Et comme ça, on peut y aller. Oui, oui, non, non. Houston. C'est bon. Très bien. Alors, c'est parti. Erev Tov, les Koulam. Et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous sur la prophétie qui se réalise. Et donc voilà, c'est parti. Nous sommes dans notre quatrième épisode. Alors, le premier épisode, on a défini qu'est-ce que c'était que l'année voie. Et durant nos deux derniers épisodes, eh bien, on s'est concentré sur la réalisation de des névoïotes qui parlent de kibbutz galouyot, du rassemblement des exilés. Aujourd'hui, nous avons terminé le sujet de kibbutz galouyot. Et nous avons vu que nous sommes réellement en train de réaliser, eh bien, toutes ces promesses faites il y a 2500 ans. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle section, une nouvelle catégorie. Alors, j'ai appelé ce cours l'abondance agricole. L'abondance agricole, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Car les prophètes, il y a de cela déjà 2500 ans et encore avant, ont parlé de ce qu'on appelle « Tenuvat Haaretz ». Tenuvat haaretz, nuvat asadeh, comme on dit dans la bracha Me'en Shalosh, al amichya val kakara val tenuvat asadeh. Et donc, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, de la résurrection de la terre d'Israël. Je commencerai donc notre étude par cette névoie du prophète Amos au chapitre 9, qui nous dit la chose suivante. Ine yamim baim, viendra un temps, Neum Hashem, venigash choresh bakotzer, ודורך הנבין במושך הזרה, והטיפו הערים, הסיס וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים, נשמות, וישבו ונטעו גרמים, ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. Ok, donc, de quoi nous parle Amos? Amos est en train de nous parler, de nous expliquer que viendra un temps où effectivement, Akadosh Baruch Hu ramènera non seulement son peuple en Israël, mais que ce peuple en Israël, eh bien, fera fleurir le pays et pourra boire son vin et manger de ses fruits, eh bien, tranquillement, à la maison, pépère. Eh bien, évidemment que vous le savez que nous sommes en train de réaliser cela, mais venez, on va rentrer en profondeur dans cette école. Eh bien, en fait, il y a une névoie qui précède. C'est le premier titre que j'avais envoyé au cours, mais je me suis dit, on va pas parler de ça, enfin, on va pas dire ça comme titre, même si on va en parler dès maintenant. Je voulais parler d'abord de la notion de terre aride. Car ça aussi, c'est une névoie et c'est le prélude à la résurrection agricole. Tout d'abord, lorsque Moshe Rabbeinu nous névoïse et nous dit qu'on va partir de la terre d'Israël, eh bien, il y a une névoie, c'est pas très clair, est-ce que c'est une klala, une malédiction, ou est-ce que c'est une bracha? Je parle de la paracha de Vayikra. La paracha de Vayikra nous dit, « Vashimoti et haaretz veshamemu alea oyevechem hayoshvim ba, veetrem hezara bagoim veharikoti acharechem cherev vaita arzechem shemama, ועריכם יהיו חורבה. Nous dit Moshe Rabbeinu qu'il y a une névoie ici qui nous prévient que lorsqu'on partira en exil, eh bien, cette terre deviendra un désert. Shmama. Car attention, et là je suis désolé de faire un petit peu d'oulpan, mais le terme midbar ne veut pas dire désert. C'est-à-dire, venez, on essaye de ne pas jouer sur les mots. Midbar, en hébreu, ne veut pas dire ce que nous, on pense quand on dit désert. Car nous, quand on dit désert, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger, rien ne peut survivre. On pense au Sahara. Désert, ça ne se dit pas midbar. Midbar, en hébreu, pourquoi est-ce que ça s'appelle midbar? Alors, on pourrait dire, eh bien, parce que c'est là que Dieu a parlé, Dibour. Mais au-delà de cela, c'est parce que c'est l'endroit où on est madbir et atzon. Madbir et atzon, ça veut pas dire qu'on le fait parler, ça veut dire qu'on le fait manger. Or, il n'y a pas assez de nourriture pour l'être humain, mais il y a suffisamment dans les buissons, dans les petits trucs qui poussent, hop là, pour les animaux. Donc, midbar, c'est pas un endroit qui est complètement désertique comme nous on l'entend. Ce qui est désertique comme nous on l'entend, c'est shmama. Dans l'hébreu de la Torah, ça s'appelle shmama, shimemon. Donc ici, nous dit la Torah, aretz tiye shmama. Et tous les goïms qui viendront s'y installer la rendront encore plus shmama, c'est-à-dire complètement aride. Moshe reviendra là-dessus lorsqu'il continuera dans le livre de Dvarim en me disant Ve'amar, chapitre 29, Ve'amar ador ha'acharon, benechem asher yakumu me'acharechem, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, אשר חילה השם בה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו. נודים משה רבנו, même la dernière génération, et là il va falloir qu'on explique qu'est-ce que c'est, la dernière génération. On parle, c'est quoi la dernière génération? C'est dans 100 ans? Non. La dernière génération, ça fait référence à la dernière génération de l'exil. C'est-à-dire, donc, la dernière génération de l'exil, nous dit Moshe, même eux et les goïms qui viendront à ce moment-là également, auront le même spectacle. C'est une terre détruite par, eh bien, l'aridité, par le fait que rien n'y pousse et par la maladie. Voilà ce qui est censé se présenter à nous, à tout simplement la dernière génération avant la fin de l'exil. Alors, comme je l'ai dit, est-ce qu'il s'agit ici d'une bracha ou d'une klala? Eh bien, dans la façon dont c'est amené, ça semble être une véritable klala. D'ailleurs, c'est pas seulement dans la façon dont c'est amené. Il s'agit de la paracha de Bechukotai pour le livre de Vaïkra et de la paracha de Kitavo dans le livre de Devarim. C'est les parachotes où on nous parle des klalot. Cependant, le Ramban, dans son commentaire donc du livre de Vaïkra, nous dit la chose suivante, et je cite le Ramban. « She'en arzenu mekabelet et oyvenu, vegam zoreaya gedola vaavtacha lanu, ki lo timtza bechol ha'yishuv eretz, asher hi tova verchava, ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה. כי מאז רע יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. Nous dit le Ramban, en fait c'est une grande bracha. C'est la preuve que Dieu nous aime. Le fait qu'il ne laisse pas les autres nations réussir à s'implanter en terre d'Israël. Rabotai, est-ce que ça s'est réalisé? Cette réalité-là, que durant l'exil, eh bien, cet endroit sera un véritable désert. Mais les amis, évidemment que ça s'est réalisé. Et j'en veux pour preuve, eh bien, on pourrait citer les Juifs qui sont venus ici. Les Juifs qui sont venus ici de tout temps, à commencer par, on vient de dire, le Ramban. Le Ramban, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, voilà, désolation, exactement. Le Ramban, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il dit qu'il n'y a pas de fleurs pour pouvoir faire la bracha de Birkat Ha'ilanot. Il n'existe pas, les fleurs. Les arbres en fleurs, il n'y en a pas en Eretz Israël. Viendra ensuite Rabbi Binyamin Mitudella, le Rabbi Benjamin de Tudel, l'explorateur, lorsqu'il viendra décrire Eretz Israël, il le décrira comme étant Midbar Veshmama, les deux. C'est-à-dire Midbar Veshmama. Lorsqu'on regardera les écrits de Rabbi Ovadia Mibartenura au XVIe siècle, il vient s'installer à Jérusalem, mais il n'y a rien à manger là-bas. C'est-à-dire que même sous la domination de l'Empire ottoman, Jérusalem est un désert. D'ailleurs, le pays d'Israël est désertique, pas seulement au niveau de l'agriculture, mais également à ce moment-là au niveau des hommes. Et lorsqu'on va se rapprocher de la Dora Acharon, justement, comme on a dit, eh bien, ce ne sont pas seulement les Juifs qui viennent ici, mais les Goyim également viennent ici et ont la même expression. Ils ont le même constat. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On peut commencer à citer Chateaubriand, qui viendra et décrira la désolation ambiante de partout. Chateaubriand, d'ailleurs, en l'occurrence, il raconte qu'il a voyagé entre Yafo et Jérusalem. Et entre Yafo et Jérusalem, il y a... Bon, c'est quoi? C'est 60 kilomètres. Hein, c'est Kvish Mispar Echad. Donc lui, je ne sais pas combien de temps il a voyagé à Dodan, je ne sais pas quoi. Il a dû mettre quelques heures à le faire. Eh bien, il raconte qu'il n'a trouvé entre Jérusalem et Yafo qu'une seule personne. Il a vu un homme, Zemayesh, un homme du nom de Abu Ghosh. Intéressant. Abu Ghosh, c'était un homme. Et de là, eh bien, il a créé en quelques 200 ans la ville de Abu Ghosh. Tout Abu Ghosh se revendique d'un seul grand-père qui s'appelle Abu Ghosh. Donc, voilà de quoi on parle, les amis. Alors, évidemment, il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres, des visiteurs qui sont venus ici. Par exemple, en 1835, arrive le ministre des Affaires étrangères de la France de la Deuxième République. 1835, donc c'est la France, c'est la Deuxième République. Il s'appelle Alfonso de la Martine. Et bien de la Martine vient nous dire, à part Jérusalem, nous n'avons rien vu de vivant dans cette terre. Il n'y avait pas le bruit d'une âme, c'était un silence éternel qui résidait dans cette terre. Rabotai, Enmalasot, tous les personnages qui se sont succédés pour visiter cet endroit, parce que protestants, parce que voulant se réveiller à la Terre Sainte, eh bien, ont tous décrit le même spectacle. Vous connaissez Mark Twain, évidemment, Oliver Twist. Eh bien, Mark Twain dira, il n'y a en afilu yishuv echad leorer kol haderech. On ne trouve personne, il n'y a rien ici. Yesh taim o shalosh kvutzot ktanot shel oale bedouim, ach en afilu yishuv keva echad. Il n'y a que quelques tentes de bédouins qu'on peut trouver, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La question qui est posée, oui, est-ce que Machiar pourra faire des miracles comme Moshe Rabbeinu? C'est une très bonne question, mais je ne vois absolument pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Donc, si vous arrivez à m'expliquer quel est le rapport entre votre question et notre étude, je réponds. Mais sinon, ça sera pour un cours sur le Machiar. En tout cas, Bekitsour, toutes les personnes qui sont venues ici, comme par exemple, eh bien, en 1874, lorsque Samuel Manning arrive ici, un des grands représentants de l'Empire britannique, nous sommes avant la déclaration Balfour, bien évidemment, il dit, mais je ne comprends pas, où sont les habitants de cette terre? Il y a ici une terre qui pourrait être florissante, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ici, nous retrouvons les paroles du prophète Jérémie, Irmiyahu Hanavi, qui nous dit au chapitre 44, qui nous dit « Vatei artsechem lechorava leshmama velekillela me'ein yoshev » C'est-à-dire que la névoie, ce n'est pas seulement qu'il n'y aura pas d'agriculture, que rien ne va pousser en terre d'Israël, mais il n'y aura également personne. On avait parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, lorsqu'on parlait du retour des Juifs en Israël, on avait dit qu'il y avait 24 000 Juifs en 1882 en Israël. Alors, c'était que les Juifs. Mais il n'y a pas plus de 60 000 personnes dans tout le pays. Zekloum. Ok ? Alors très bien. Maintenant qu'on comprend cela, eh bien, arrivons à la deuxième étape. La réalisation de la promesse était claire, mais il y a juste un petit problème. C'est qu'effectivement, il n'y a personne en Israël. Il n'y a personne en Israël. Aval, il y a également... Enfin, il n'y a personne, il n'y a pas de juifs. Mais ceux qui vont commencer à revenir en premier, eh bien, ce sont des non-juifs. Des non-juifs qui voient, par exemple, parce que je vais dire, rien n'a bougé, jusqu'à la Première Guerre mondiale, rien ne bouge. Même la première alia, on a vu que ça avait fait augmenter, mais un tout petit peu. Et pour ce qui est des non-juifs, il n'y a pas quoi. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de la déclaration Balfour, on a vu qu'il va y avoir un push chez nous, mais il y a également un push chez les Arabes. Et ça, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Comment ça se fait que les Arabes arrivent en masse après la déclaration Balfour? Quel rapport entre eux et la déclaration Balfour? Eh bien, c'est exactement ce que pose comme question en 1939. Je vais déjà très loin en avant. Lorsque Winston Churchill pose la question, on lui dit « il faudrait peut-être temps d'enlever le Sefer HaLavan, d'enlever le livre blanc pour permettre aux Juifs de venir en Israël. » Il dit « Non mais attendez, vous êtes marrant, le livre blanc, bon, faudra qu'on discute. Mais de toute façon, les quotas permis par le livre blanc ne sont pas atteints. Les Juifs, ils viennent pas. » Et il dit « Je comprends pas. Bien qu'ils ne soient pas persécutés dans les pays européens, il dit « Les Arabes, qui ne sont ni persécutés dans les pays européens, ni persécutés dans leur pays, eux, ils viennent. Eux, ils viennent en Israël. Et comment c'est possible ? Ils viennent alors qu'on aurait attendu que la population juive vienne de plus en plus. » Alors, on a expliqué pourquoi les Juifs, eux, ils venaient pas. Mais les Arabes, pourquoi ils viennent ? Eh bien, il dit tout simplement parce que ils attendaient les Juifs en se disant que si les Juifs reviennent, cette terre redeviendra florissante. C'est quelque chose que les Arabes savaient. Ils savent tous, les Arabes de la région, aujourd'hui, qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ici. Il faut bien comprendre ça. C'est peut-être un cours de géopolitique, je ne sais pas, mais il faut bien comprendre que tous les Arabes, l'écrasante majorité des Arabes qui habitent aujourd'hui en Eretz Israël, ils ne viennent pas d'Eretz Israël. Il n'y en avait presque pas avant le mouvement sioniste. Ils sont tous venus après. Et j'en veux pour preuve les noms. Les noms des familles qui dirigent Israël, des familles arabes, hein, les familles arabes qui dirigent les différentes secteurs d'Israël, eh bien, vous avez des familles très importantes, comme par exemple la famille El-Masri. El-Masri, c'est El-Mitzrayim. C'est ceux qui viennent d'Égypte. Vous avez la famille El-Kurad. Ce sont ceux qui viennent de Kurdistan. Vous avez la famille Al-Tardidi qui viennent de Irak. Vous avez la famille Halabi qui viennent de Syrie. Vous avez la famille El-Lebanoni qui vient du Liban. La famille Ottoman qui vient de Turquie. Al-Hijjai qui vient de Bahreïn. Oman qui vient d'Arabie Saoudite. El-Raj qui vient de Maroc. El-Jazir, qui vient d'Algérie, qui vient de Bosnie, et El-Shishni, qui vient de Tchétchénie, Abid, qui vient du Soudan. Rabotai, toutes ces familles-là sont les familles qui dirigent la Hevra Aravit aujourd'hui en Eretz Israël. Et aucun d'entre eux ne vient d'Eretz Israël. Où sont les Juifs? Eh bien, c'était la névoa de Yirmiyahu que la Shemama sera non seulement au niveau agricole, mais elle sera également au niveau du peuple juif. Bon, très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'il y a cette névoie de Shemama, eh bien, il y a également le moment où tout se remet en marche. « Vekarati et eladagan veirbeti oto » Les amis, nous retrouvons cette fois le prophète Yechezkel qui vient et nous explique que, bon, ben, c'est-à-dire, il y a eu une névoie qui était pendant l'exil Shemama, mais il y a bien un moment donné où l'exil s'arrête. Et lorsque l'exil s'arrête, eh bien, nous l'avons expliqué, Am Israël revient, et au moment où Am Israël revient, eh bien, Akadosh Baruch Hu décide de redonner à la terre d'Israël sa capacité d'être le Gan Eden le Gan Eden Mamash, eh bien, qu'elle doit être. Et là, j'aimerais, et on va rentrer dans des chiffres, hein, excusez-moi, pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Là, pour le coup, il ne s'agit pas de miracle en mode ouverture de la mer Rouge. Il s'agit tout simplement de la réalisation de la névoie par des moyens que celui qui n'a pas les yeux pour voir dira bah, « c'est naturel ». Nachon, c'est naturel. Sauf qu'il a fallu attendre que les propriétaires de la terre d'Israël reviennent à la maison pour que la terre se mette à refaire ce qu'elle a toujours été capable de faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous donner un exemple pour réaliser le verset du livre de Yechezkel au chapitre 36. Nous dit Yechezkel à Navi, « Vekarati ala dagan veirbeti oto » J'ai appelé Dagan, la céréale, et je lui ai dit « Multiplie-toi !»« Veirbeti et peri a etz utnuvat asade leman asher lo tikechu od cherpat ra'am ra'av bagoyim » J'ai dit que lorsque vous allez revenir, j'ai ordonné aux céréales et aux fruits de pousser pour que vous ne soyez plus tributaires d'égoïmes. Ce n'est donc pas la névoie qui se réalise, mais nous qui réalisons cette névoie, qui sont les modalités de ce retour. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire blanc bonnet, bonnet blanc. Ça veut dire quoi? La névoie se réalise. Akadosh Baruch Hu décide de réaliser sa promesse, sa prophétie, par un intermédiaire, à savoir nous. Comme lorsqu'on a parlé de Kibbutz Galouyot, vous ne m'avez pas fait la remarque. Eh ben alors, c'est pas la névoie qui se réalise, c'est nous qui revenons en Israël. Mais évidemment, car Akadosh Baruch Hu réalise ses promesses dans la misgueret, dans le cadre de ce monde. Donc évidemment que ça passe par des réalisations humaines. Bien sûr, je vous rappelle que c'est exactement le propre, eh bien, du verset que vous connaissez très bien, qu'on lit durant le Kiddush, qui nous dit « Kivo shavat mikol melarto, asher bara Elohim, la asot ». C'est-à-dire que Dieu, eh bien, il s'est lui arrêté de faire les miracles, et c'est à nous maintenant de continuer à parfaire le monde, c'est-à-dire en l'occurrence, de réaliser la névoie. Donc bien sûr que c'est la névoie qui se réalise, seulement comment est-ce qu'elle se réalise? Par notre intermédiaire. Ok, c'est Akadosh Baruch Hu attend de nous d'être acteur pour réaliser la prophétie, bien évidemment. Donc, je vous disais, Dieu a dit, j'ai ordonné aux céréales et aux fruits de recommencer à pousser. Que vous ayez un tout petit peu de chiffres, que vous compreniez de quoi on parle. Il y a 120 ans, eh bien, lorsqu'on fait pousser, lorsqu'on plante un grain de blé, va pousser entre 17 et 20 épis de blé. C'est le chiffre il y a 120 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En 2017, l'Organisation israélienne de l'agriculture, eh bien, nous donne les chiffres. Pour un grain de blé poussé, semé, slicha, eh bien, on va réussir à récolter 750 épis de blé. 750 épis de blé. Faites votre calcul en 120 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est exactement de cela qu'on parle. Il faut savoir que, à partir déjà du retour en Israël, mais ça ne va qu'en grandissant, eh bien, en production de céréales, en moyenne, par rapport, eh bien, à la dounam, c'est-à-dire au terrain cultivable, Israël est largement supérieur à la moyenne mondiale. Si la moyenne mondiale, ben ça a l'air, entre Israël et le monde, en 1900, je dis les chiffres, en 1965, pour la moyenne mondiale est de 0,7, c'est-à-dire quoi la 0,7, c'est combien il y a de tonnes de production par dounam. Okay, en tonnes de production agricole, si la moyenne mondiale est de 0,7 tonnes en 1965, elle est déjà de 1,3 tonnes en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on est déjà au-dessus de la moyenne mondiale. Et en 2010, les études ont commencé en 2004, en 2010, eh bien, la moyenne mondiale est passée à 1,2 tonnes de récolte agricole par dounam. En Eretz Israël, on a 3 tonnes. Donc vous comprenez que ici, Akadosh Baruch Hu kara la Dagan, va Dagan amar, je suis là. Mais on a dit, ce n'est pas seulement les céréales, c'est également les fruits. Bah, qu'est-ce qui se passe au niveau des fruits? Hop là. Eh bien, au niveau des fruits, c'est pareil. Rabotai, c'est exactement pareil. Toujours en termes de kilos, cette fois, de production par dune d'agriculture. Eh bien, dans le monde, en moyenne, et nous parlons ici, cette fois, des chiffres qui datent de 2014, donc c'est beaucoup plus récent. En agvagnot, mes amis, oui, on fait de l'agriculture aujourd'hui. En agvagnot, la moyenne mondiale est de 400 kilos par dune de production. En Israël, 850. En mélafephonim, en concombre, on est à 300 kilos en moyenne mondiale. On est à 950 pour les concombres en Israël. Et pour ce qui est des pommes, manger des pommes, comme disait Jacques Chirac, on est à 200 kilos en moyenne mondiale. On est à 400 kilos en moyenne en Eretz Israël. Évidemment, pour nous, le fruit qui est le phare, le fruit qui était là il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on ne faisait pas pousser ni des mélafephonim, ni des agvagnot, et ni des tapourim. Il y a 2000 ans, on faisait pousser. Il y a 2000 ans, on faisait pousser du raisin. Eh oui, les amis, le raisin. On va y venir au raisin, on va y venir au vin. Mais comprenez bien que ce n'est pas les Français qui ont inventé le vin. Le vin, il vient d'abord de chez nous. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, eh bien, les raisins, en moyenne mondiale, on est, là encore, on parle en kilos, on est à 90 kilos de raisins par dune, eh bien, en moyenne mondiale, on est, les amis, à 170 kilos pour Israël. Pour ce qui est des figues, qui étaient là aussi il y a 2000 ans, eh bien, on est à 30 kilos par moyenne mondiale, on est à 85 kilos sur moyenne israélienne. Pour ce qui est des dattes, eh bien, alors qu'on est à 60 kilos sur la moyenne mondiale, on est à 65 kilos sur la moyenne israélienne. En d'autres termes, eh bien, que ce soit les céréales ou que ce soit les fruits, Bémet, les céréales et les fruits ont répondu à Kadosh Baruch Hu. Et là, pour le coup, eh bien, mon cher Bernard, certes, nous, on a récolté, on a semé, on a travaillé les champs, mais au final, c'est les fruits qui ont répondu. Et ils poussent plus qu'ils n'ont poussé pendant 2000 ans. Et ça montre encore une fois ce qui est en train de se passer. Il y a une autre denrée dans laquelle Israël est devenu maître, est devenu un modèle pour le monde entier. N'oubliez pas, Sira, que la terre d'Israël, l'une des brachot qu'elle a reçues, c'est qu'elle est Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Mais ici, on va s'occuper du Chalav. Eh oui, Chalav. Eh bien, les amis, qu'est-ce qui se passe au niveau du Chalav? Les amis, il y a 120 ans, quand on a commencé à faire des mesures, eh bien, une vache laitière, produisait par an 4000 litres de lait. Aujourd'hui, en 2018, en moyenne, les vaches israéliennes produisent plus de 11 000 litres de lait par vache et par an. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les paroles de Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, au chapitre 7. Ve'avecha ve'berachecha ve'irbecha operi ubarer peri bitnecha operi admatecha deganecha ve'tiroshcha ve'itzarecha shegar alafecha ve'ashterot tzonecha al adama asher nishba la'avotecha latetlach baruch tiye mikol ha'amim. Les amis, nous sommes largement dans la réalisation de ces promesses. Ainsi, lorsque le prophète Yechezkel nous dit sa phrase clé par rapport à l'agriculture en Israël, eh bien, vous la connaissez cette phrase, elle dit « Ve'atem arei Israël anpechem titenu upiriechem tisu le'ami Israël ki kerevu lavo. » C'est-à-dire, et là, je vais y revenir dans deux secondes dans cette phrase-là, mais que vous compreniez bien, aujourd'hui, Israël est au top du monde pour la production de lait, par exemple. Hein, je veux juste que vous soyez conscients. Je veux dire, le top du monde, 11 800 litres de lait par vache par an, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, Israël est au top du top. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que, en termes de territoire, pour faire paître les vaches laitières, c'est pas comme si les vaches, elles avaient plein d'endroits pour aller s'amuser et faire du lait. Les amis, en termes de dunes par vache, on est très petit, hein. On est à 0,7. 0,7. C'est rien du tout. Et le miel dans tout ça? Ah bah, on a dit. Et le miel dans tout ça? D'abord, pour ce qui est du miel d'abeille. Ah bah, alors là, tu en veux-tu, en voilà. Mais le miel, en l'occurrence, ça peut être également le miel de date. Et à ce moment-là, on a déjà évoqué les dates. Donc, les amis, en mala asot, les fruits et les céréales, eh bien, ont répondu présent. Mais il faut savoir que cette réalité de la résurrection agricole n'est pas seulement une belle nouvelle pour l'agriculture et pour la population, mais c'est également la promesse de la Géoula. Tout simplement. Car ce verset de Yéhézkel que je viens de lire, et je le relis au chapitre 36, nous dit « Va'atem are Israël, anperem titenu upirichem tisu le ami Israël qui kirvu lavo » nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dit « Va'amar Rabbi Abba, en lecha ketz megule mise » il n'y a pas de plus grande preuve de la Géoula que celle-là. Lorsque tu verras la terre d'Israël redonner ses fruits, eh bien, ça sera la preuve que c'est la Géoula. Rabotai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu une rencontre absolument incroyable. Ah, je vais vous montrer même la photo parce qu'elle vaut le détour. Voilà, rencontre incroyable entre le rabbi de Lubavitch et le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, les deux Zatzal hein, d'ailleurs. Le rabbi de Lubavitch a reçu le Rishon Netzion. En fait, il a reçu les deux grands rabbins d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu et Reb Avrum Shapira. Et ils ont parlé évidemment de tout, de plein de choses. Mais la question sur la notion de Géoula était une question très importante. Et le rabbi a dit, bon, pour lui, on sait bien que pour Chabad, l'État d'Israël, ce n'est pas la Géoula. C'est très important, c'est très bien, mais ce n'est pas la Géoula. Alors que pour les grands rabbins d'Israël, eh bien, il s'agissait bel et bien de la Géoula. Mais sur quoi était leur point de désaccord? Eh bien, leur point de désaccord était sur, parce que Reb Avrum Shapira, il a dit, Aval, Katoub et Yechezkel, que lorsque viendra le moment où la terre d'Israël redonnera ses fruits, En lecha ketz megoulé misé. Et le rabbi a répondu, certes, mais le problème, c'est que le Rambam n'a pas mentionné ni ce verset, ni cette Gemara, dans ses lois sur la Géoula. Et donc, puisqu'il ne les a pas mentionnées dans les lois sur la Géoula, alors, eh bien, ce n'est pas obligé qu'on passe par là. Et que le fait que ça soit véritablement l'heureux de la résurrection des fruits ne veut pas forcément dire que c'est la Géoula. Le Rav Mordechai Eliyahu, à ce moment-là, lui a répondu et lui a dit « Aval kvod arav, le Rambam l'a oui marqué à un autre endroit. Il l'a marqué dans les lois sur la Tefila. Puisque sur les Ilchot Tefila, le Rambam nous dit que la Shmoné Esre, eh bien, l'ordre des Brachot, il est l'Ikuva. Ça veut dire que tu ne peux pas faire la Shmoné Esre dans l'ordre que tu veux des Brachot. Il faut suivre l'ordre qui est marqué dans le Sidour. Lama, eh bien, parce que chaque bracha qui parle d'une chose, eh bien, amène et prépare celle d'après. Or, pourquoi, le dit le Talmud, la bracha de la Parnassa, Mevarech Hashanim, arrive avant la bracha de la Geoula, de Teka Beshofar Gadol Lecherutenu? Parce que, Ve'atem, Are Israël, Anpechem Titenu, Piriechem Tisu, l'ami Israël qui kirvu lavo. Qu'il y a donc une résurrection agricole de la terre avant d'avoir le retour des Béné Israël. La discussion s'est terminée là-dessus. Mais en d'autres termes, vous comprenez de quoi on est en train de parler. Am Israël n'est pas là, la terre est en désolation. Am Israël revient, la terre arrive et redonne ses fruits. Alors, Medvedev, Mokouv, tu as des questions extrêmement importantes, mais véritablement, je n'arrive pas, alors je suis pas au niveau, hein, peut-être, mais je n'arrive pas à comprendre quel est le rapport de tes questions avec ce qu'on étudie. Est-ce que Mashiach pourra faire des miracles comme Moshe Rabbeinu ? Je vois pas le rapport avec ce qu'on étudie. Et est-ce que les extraterrestres existent-ils selon la Torah ? Là aussi, je vois pas vraiment le rapport. Donc encore une fois, si tu arrives à m'expliquer le rapport entre tes questions et le cours, j'y répondrai avec plaisir. La reine, une fois qu'on a vu que la terre d'Israël devient un désert durant notre exil et commence à redonner ses fruits lorsque nous revenons, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la terre d'Israël qui redonne ses fruits, mais il s'agit également de redonner au Am Israël la capacité de travailler la terre. La reine Adam lo tocheli od vegoyaich lo tesakeli od. En d'autres termes, il y a ici une promesse que la terre d'Israël ne sera plus une malédiction, pas seulement agricole, mais également une malédiction pour la vie humaine. Rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début de notre étude aujourd'hui par rapport à Moshe Rabbeinu. Je rappelle le verset, histoire que ça revienne bien dans la tête de tout le monde. Moshe Rabbeinu nous avait dit au début de la névoie, « Iné, v'amar ador ha'acharon benechem asher yakumu ma'acharechem v'anochi asher yavou me'eretz rechoka v'ra'u et ha'makot ha'aretz ahi v'et tachalueha asher chila Hashem ba gofrit v'amelach v'sreifa v'kol ha'arzah לא תזרע ולא תצמיע ולא יעלה בה כל עשר, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que nous dit Moshe, que la dor haacharon pourra être témoin. D'un côté, la désolation agricole, mais également le fait que la terre d'Israël, va nous faire mourir. Il y aura une maladie terrible et les gens mourront en terre d'Israël. On peut déjà retrouver cette réalité-là dans le livre de Bamidbar, lorsque les méraglim, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont à dire contre la terre d'Israël ? Ils disent, mais cette terre, elle est terrible ! Ze'eretz ochelet yoshevea. C'est une terre qui mange, littéralement, ses habitants. Les amis, c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai pendant l'exil. Et effectivement, Ador Haacharon, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à arriver ici, on parle donc du 19e siècle, Ador Haacharon, eux, ils ont fait face à cette maladie qui était destructrice en Eretz Israël. Comprenez-moi bien, on parle de quelque chose que Imkol HaKavod, le corona, c'est du pipi de chat à côté de ce que les gens ont dû avoir à faire face lorsqu'ils sont arrivés ici au 19e siècle. De quoi parlons-t-on ? Évidemment, vous avez compris de quoi je parle, de cette maladie terrible qui était en Eretz Israël, à savoir la malaria. Et oui, la malaria était absolument terrifiante et dévastatrice ici en Eretz Israël. À tel point que, dira ici par exemple le général Allenby, Zo Achat Haaretzot, c'est un des territoires qui est le plus frappé par la malaria dans le monde entier. Ed Malasot. Voilà ce qui se passe ici. La malaria. Alors la malaria, vous connaissez, c'est ce virus qui est transmis par ce moustique terrible, Anopheles. C'est un moustique terrible et c'est une maladie terrible. On ne sait pas comment gérer cette situation. Il faut comprendre que c'est la première fois, c'est-à-dire, qu'il va falloir faire face. Parce que comment les hommes réagissent par rapport à la malaria lorsqu'elle arrive dans les différents secteurs dans le monde ? Lorsqu'il y a la malaria qui se présente quelque part, les gens s'en vont. jusqu'à présent, lorsque la malaria arrive, les gens partent. Parce que c'est impossible de gérer la malaria. Sauf que lorsque les pionniers vont arriver ici, dans la première alia, ils ont prévu d'y rester. Ils sont revenus par idéal sioniste, comme on a pu le mettre en valeur dans les cours précédents. Et donc, ils n'ont pas prévu de partir. Donc, puisqu'ils n'ont pas prévu de partir, il faut trouver une solution à la malaria. Et c'est la première fois... Tu veux dire bonjour ? Tu dis bonjour à tout le monde ? Bonjour ! Comment on dit ?
Bonjour.
Bonjour tout le monde !
Ah, tu vas à tout le monde !
Non. Bekitsour, pour la première fois, on va essayer de vaincre la malaria. Alors, comment ça va se passer ? La malaria, on sait que c'est ce moustique. Et on sait que ce moustique, eh bien, il est dans les marécages. Que faire ? D'abord, on va essayer de planter des eucalyptus un peu partout, en se disant peut-être que ça va marcher. Ensuite, on se dit, bon, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement essayer, eh bien, de noyer les moustiques dans de l'huile. Et on va recouvrir les marécages d'huile. Tu parles. Ça marche pas. Et donc arrive l'idée complètement folle, parce que faut vous imaginer qu'est-ce que ça veut dire. D'assécher les marécages. Et là, on va commencer à mettre en place le programme de la vallée de la Roula, où l'objectif est d'assécher les marécages. Mais c'est un travail titanesque. Titanesque. On parle à ce moment-là de territoire absolument énorme. Les gens qui viennent ici sont prêts à laisser leur vie. J'arrive dans le cimetière de Zichron Yaakov. Et vous avez à l'entrée du cimetière deux rangées très longues avec des tombes qui font cette taille-là. Parce que ce sont les tombes de tous les bébés qui n'ont pas survécu à la malaria dans les premières années de Zichron Yaakov. Absolument terrible. Dans le Sharon, Ron. Ah, pas surtout. Non, pas surtout. Emek Achoula, c'était absolument terrible également. Mais tu as raison que aussi, Emek Acharon. Totalement. Totalement. C'est pour ça que je viens de parler de Zichron Yaakov. Effectivement. Les amis. Alors, que faire? Eh bien, on va se battre et on va réussir. On va réussir à vaincre la malaria. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus de malaria en Israël. Et là-dessus, eh bien, se réalisent les paroles du prophète Yechezkel. Au chapitre toujours 36, qui nous dit « Ko amar Hashem Elohim, yan omrim lachem ochelet adam at, u meshakelet goyaich hait » C'est-à-dire, on dit de toi, la terre d'Israël, que tu es mangeuse d'hommes. « Lachem, adam lo tochli od, ve goyaich lo teshakeli od, neum Hashem Elohim, ve lo Hashemia elaich od, kelimat goyim, ve cherpat amim lo tisi od, ve goyaich Elohim. Bien les amis, nous sommes complètement ceux qui avons réussi eh bien, à réaliser cette névoie-là. Les amis, le désert a refleuri. Zéou, Kedivré Anavi Yishayaou. Parce qu'on a parlé de fruits, on a parlé de, comment dire, de céréales, on a parlé de maladies. Makoré avec l'eau. Il y a de l'eau en Israël. Pendant 2000 ans, il n'y avait pas d'eau ici. Nous dit le Sefer Yishayahu au chapitre 41. Eftach al shefaim neharot ubetor bikaot ma'ayenot asim midbar le'agam maim peretz tzia le'motzaim maim. Il continuera dans le chapitre, il ira dans le chapitre même Gimel au chapitre 43. כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה והיה אשריו לאגם וצמאון למעבוי מים. C'est ainsi que s'exprime le grand rabbin d'Israël, הרב יצחק ניסים, lorsqu'il voit la réalisation du mobile. התקיימו דברי ישעיהו הנביא, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה והיה אשריו לאגם וצמאון למעבוי מים. Il redit les versets qu'on vient de lire de Yishayahu Anavi. Mais les amis, il ne s'agit pas simplement d'amener de l'eau du Kinneret. Il s'agit de développer ici, en Eretz Israël, eh bien, la Chochmat Amaim. Mazé Chochmatamaim. Combien de fois on a entendu en Israël, ici on fait attention à l'eau. Ici on fait pas de bataille d'Ostam. Mais comment vous pouvez imaginer? Comment on peut imaginer, il y a 100 ans, que c'est du désert israélien, du désert israélien, mamache, que va naître la technologie mondiale, mondiale, du goutte à goutte. Le goutte à goutte, révolution technologique. Pashout, un truc de dingue. Est-ce que vous savez comment c'est né, le goutte à goutte? Est-ce que vous imaginez comment c'est né, le goutte à goutte? Ben, je vais vous dire. Il y a un homme qui travaille dans un kibboutz. Il est dans un kibboutz et tout, il est ingénieur en agronomie. Mais pour l'instant, il ne peut pas s'occuper de ça, il s'occupe d'autre chose. Et puis un jour, il voit, il est à l'armée, et il voit, il passe dans un kibboutz, donc il sert dans un kibboutz. Et puis, il se rend compte que c'est bizarre, cette histoire. Il y a un pardès, il y a un champ avec des orangers. Ok, ils sont tous bien alignés, tout ça, ce que tu veux, tout va bien. Ils donnent, ils sont plus ou moins tous au même niveau, plus ou moins. Et il se rend compte qu'il y a un oranger qui est pas du tout dans la même zone. Il est à quelques dizaines de mètres, et il n'est pas du tout dans la même ligne que les autres, il est bizarre. Il va le voir, parce qu'il se rend compte que cet oranger-là, il donne beaucoup plus. Non, mais mec, Shira, va cacher Titi. זהו, את עושה רעש, בבקשה, סוף. אלי, דור. נעשה ברוך. Et donc, il voit que cet oranger, il donne des oranges plus grosses, plus belles, et en a plus que dans tous les autres. Il dit, mais c'est bizarre, tous les autres, ils sont arrosés par les agriculteurs tout le temps. Lui, il a poussé là-bas tout seul. Makaracham. Comment c'est possible? Il va chercher et il se rend compte qu'en fait, eh bien, l'arbre a poussé juste à côté d'un tuyau. Un tuyau enterré. C'est un tuyau qui a amené de l'eau au village. Pas pour l'agriculture, pour les gens du village. Seulement, à l'endroit de l'arbre, il se rend compte qu'il y a un trou dans le tuyau. Mais un tout petit trou qui laisse tomber des gouttes. Il se dit ça c'est peut-être une idée. Il termine son armée, machin, nan, nan, il reviendra beaucoup plus tard et il commencera à étudier le sujet, à faire ses calculs et il comprendra que le goutte à goutte, c'est en fait ce qui permet de donner exactement la quantité d'eau que l'arbre a besoin pour donner son maximum. Et donc, on va tout simplement produire eh bien, le goutte à goutte. Mais ça, c'est la révolution. Qui nivkeu bamidbar maim nechalim ba'arava. Et il y aura maintenant à manger dans le désert. En Israël, le combat pour l'eau va faire également de nous les numéros 1 dans le recyclage des eaux usagées. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est un chiffre absolument ahurissant. En Israël, 86% des eaux usagées sont réutilisées pour l'agriculture. 86%, c'est énorme. Quand vous savez que aux États-Unis c'est 1% et dans l'Europe c'est 1%, 86% en Israël. Rabotai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche tellement bien que l'OCDE, eh bien, va tout simplement en 2005. Non, qu'est-ce que je raconte en 2005? En 2000, on est en 2020 aujourd'hui, donc en 2014, pas pour moi, en Tafshin Ein He, l'OCDE va dire, eh bien, pour ce qui est de l'eau, il n'y a aucun doute que Israël est la réussite la plus importante dans le monde entier. Les prix de l'eau sont faibles, les infrastructures pour la récupération des eaux usagées sont les meilleures du monde. Il s'agit ici d'un véritable exemple pour le monde entier qui permettra au final d'amener à la fin de la pénurie d'eau dans le monde. Voilà ce que dit l'OCDE sur nous par rapport à l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi que parle le prophète Yeshayahou au chapitre Nun Aleph 51, qui Niham Hashem Tzion, Niham Kol Harvotea, Vayasam Midbara Ke Eden, Vayaravata Ke Gan Hashem, Sasson Vesimcha, Yimatseba, Toda, Vekol Zimera. Vayiti Ke Gan Rave, Ke Motzaim Maim, Asher Lo Yichasevu, Memav. Eretz Israël est redevenue du désert qu'elle a été pendant 2000 ans, eh bien le Gan Eden agricole qu'on la connaît, qu'on connaît aujourd'hui. Combien de fois vous avez eu l'occasion de vous balader en Israël? Et combien de fois on aura encore l'occasion de se balader en Eretz Israël et de voir à quel point, eh bien, ces prophéties se sont tout simplement réalisées et continuent à se réaliser de nos jours. À bientôt pour de nouvelles prophéties que nous sommes en train de réaliser, un nouvel épisode la semaine prochaine. Chazak u Baruch.